Vous écoutez On lit pour vous.
Des drogues plus dangereuses dans les écoles. Un texte de Jessica Nadeau, paru le 29 octobre 2024 dans Le Devoir. Il y a toujours eu de la drogue à l'école, mais ces dernières années, la situation est devenue plus inquiétante. Les substances sont plus variées, plus fortes et surtout plus sournoise en raison de la contamination au fentanyl et à ses dérivés. En parallèle, l'accès aux stupéfiants via les réseaux sociaux est plus facile que jamais. Le Devoir a voulu faire le tour de la question. Dans ce premier volet, les saisies dans les écoles. Près de 28 kilos de cannabis, plus de 1300 comprimés de speed et de médicaments d'ordonnance, plus de 130 grammes de cocaïne, mais aussi du crack, du crystal meth et des opioïdes, incluant du fentanyl. C'est une partie des substances qui ont été saisies dans les écoles secondaires du Québec depuis 5 ans, selon les chiffres obtenus par Le Devoir. Comme tout bon directeur d'école, Robert D'Aquila a des yeux tout le tour de la tête. Avec les surveillants de l'école secondaire du Mont-Bruno, à Saint-Bruno-de-Montarville, il observe les jeunes, les mouvements, les attroupements. Il est à l'écoute et sait généralement ce qui circule en matière de drogue dans son école. C'est comme ça qu'on vient à dénouer, parce qu'on ne peut pas éradiquer complètement, les petits groupes qui se forment dans un but de consommer ou de vendre de la drogue. Il a beau dire qu'il n'y a aucun surveillant qui joue à la police, les comportements suspects sont signalés et investigués. C'est ainsi qu'en 2023, il a saisi 40 wax pens, des vapoteuses contenant du cannabis, destinées à la vente d'un jeune de l'école qui était surveillé depuis 1 mois. C'est l'une des 12 fois où le directeur a dû appeler la police en 2023. 12 fois de trop, dit-il. Généralement, il tente par différents moyens d'aider les jeunes avant d'en venir là. Mais des fois, cela s'impose. J'ai des parents qui me disent « La prochaine fois, vous appelez la police, faites-le arrêter. » De plus, lorsqu'il saisit des substances illégales, il est tenu par la loi d'appeler les policiers pour que ceux-ci en disposent. Selon la gravité des événements, des accusations peuvent être portées ou non. Des substances inquiétantes. Les saisies dans les écoles ne sont pas des cas exceptionnels et les quantités ne sont pas négligeables, a pu constater Le Devoir, qui a obtenu les chiffres de la Sûreté du Québec, SQ, qui est implantée dans une quinzaine de régions et de quelques corps policiers municipaux. Depuis 2019, les policiers ont saisi près de 28 kilos de cannabis sous différentes formes, dont 18 kilos de cannabis séché, soit l'équivalent de 56 250 joints, et plus de 2,7 kilos de jujubes. On voit également de grandes quantités de champignons magiques et de cocaïne, des comprimés de speed et de médicaments d'ordonnance. Des opioïdes aussi. La SQ a saisi 217 comprimés de codéine dans une ou des écoles des Laurentides en 2022, plus quelques comprimés ici et là de morphine, de dilodide, d'oxycodone et de fentanyl. Dans le lot, on retrouve aussi, en plus petite quantité, des roches de crack, du crystal meth, des stéroïdes et même des précurseurs chimiques qui servent à produire des drogues de synthèse. Le lieutenant Benoît Richard, coordonnateur aux communications à la SQ, reconnaît que la présence de substances très fortes est inquiétante. Ça ne devrait pas se retrouver là, évidemment, et juste le fait de savoir que des jeunes ont accès à ce type de drogue-là, c'est certain que pour nous, c'est quelque chose qu'on prend en compte. Il s'inquiète également, comme plusieurs autres policiers avec qui Le Devoir a pu s'entretenir, de la contamination des drogues, qui est de plus en plus fréquente, alors que plusieurs substances contiennent par exemple du fentanyl ou des dérivés encore plus puissants, sans que les consommateurs soient au courant. Ces stupéfiants, que ce soit le crack, la cocaïne, etc., on sait que c'est coupé avec toutes sortes de produits chimiques qui font en sorte que c'est dangereux pour la santé et la vie de nos jeunes. Donc, c'est très, très inquiétant, affirme l'agente Mélissa Bossé de la police de Saint-Jérôme. Autour de l'école. Seulement 4 services de police municipaux ont été en mesure de fournir au devoir les quantités de drogue saisies, la grande majorité d'entre eux comptabilisant plutôt le nombre d'événements par type d'effraction. Ceux-ci sont principalement reliés à la possession de wax pen et de cannabis, mais on voit aussi quelques cas de possession de cocaïne et de comprimés divers et du trafic de stupéfiants. Au total, les 9 services policiers ayant partagé leurs chiffres sont intervenus près de 1000 fois dans des écoles secondaires au cours des 5 dernières années. En fonction du milieu scolaire et de l'approche prônée par les directions, certaines étant plus axées sur la répression, d'autres sur la réduction des méfaits, les policiers seront plus ou moins sollicités pour intervenir dans les écoles. Les saisies dans les écoles, ça se fait quasiment chaque semaine, mais à 99%, ce sont les intervenants du milieu scolaire qui nous contactent pour dire qu'ils ont saisi des stupéfiants, de la possession personnelle, sur un étudiant, explique le policier Luc Mongrain de la police de Trois-Rivières. L'inspecteur James Pexao, du service de police de la ville de Montréal, SPVM, a un portrait un peu différent pour la métropole. Avec un total de 142 événements liés à la drogue dans les écoles secondaires depuis 2019. On n'a pas énormément de dossiers dans les écoles comme telles, parce qu'on n'a pas de plaintes. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas, mais souvent, les écoles vont essayer de prendre les jeunes en main dans le but de les aider. C'est lorsque ça devient hors de contrôle qu'ils nous appellent. Il indique par ailleurs que les transactions vont davantage se dérouler à l'extérieur des écoles, dans des endroits moins surveillés, comme les parcs et les lieux publics en périphérie, par des vendeurs qui ne fréquentent pas nécessairement l'établissement scolaire. La priorité numéro 1, dans une enquête de stupéfiants, c'est quand il y a des mineurs impliqués. Si on a un vendeur proche des écoles, pour nous, c'est une priorité. À Saint-Jérôme, l'agente Mélissa Bossé se souvient, elle aussi, de certaines opérations impliquant des vendeurs adultes qui ciblaient la clientèle scolaire. Dans un cas, le vendeur tenait ses activités dans son appartement juste à côté de l'école, et dans un autre, à partir de son véhicule qui était stationné devant le dépanneur fréquenté par les jeunes sur l'heure du midi. Vous écoutez « Des drogues plus dangereuses dans les écoles », un texte de Jessica Nadeau, paru le 29 octobre 2024 dans Le Devoir. Internet. Pusher numéro 1. Selon le lieutenant Richard de la Sûreté du Québec, l'offre a augmenté et s'est diversifiée avec le temps. Il y a plusieurs années, ce qu'on retrouvait dans nos écoles, c'était principalement du cannabis, dit-il. Là, on peut trouver d'autres drogues qui sont amenées par les organisations criminelles parce que les jeunes dans les écoles, c'est une clientèle. Donc, ils vont trouver un moyen d'attirer cette clientèle-là de différentes façons. La drogue est aujourd'hui plus accessible que jamais pour les jeunes, constatent plusieurs intervenants qui dénoncent la facilité déconcertante avec laquelle on peut se procurer des substances illicites sur le web. On n'est plus dans la petite ruelle au coin de Berry-UQAM. Pote, moche, mescaline. Tu es autonome dans ta consommation et dans ton achat de drogue, illustre Émilie Poisson d'Action Toxicomanie. Selon elle, Internet est devenu le pusher numéro 1. On peut se procurer de tout. Et c'est livré directement à la maison. Devant l'ampleur du problème, son organisme a fait récemment une campagne de prévention à l'intention des parents. Ça disait « Si vos enfants se font livrer des colis à la maison, intéressez-vous au contenu. Ce n'est pas nécessairement un jeu vidéo », explique Mme Poisson. Il y a aussi les réseaux sociaux. Les applications comme Snapchat, Instagram et Telegram permettent aux vendeurs de proposer toute une gamme de produits illicites dans des publications qui disparaissent au bout de quelques heures. Pour les enfants, ça reste une facilité de dire « Je n'ai même pas besoin de parler à personne. J'écris sur Snapchat et quelqu'un vient livrer ma drogue au coin de la rue », déplore également l'agente Erika Grondin de la police de Châteauguay. La prochaine vague. Même si les opioïdes sont encore très marginaux dans les écoles, comme en témoignent les chiffres du Devoir et l'ensemble des témoignages recueillis, ils sont de plus en plus présents dans la rue et de plus en plus forts. C'est une demande, les gens qui consomment ont besoin de substances de plus en plus fortes, dit en soupirant l'inspecteur James Paxao du SPVM, qui ne cache pas son inquiétude de voir la prolifération dans les rues de Montréal des nitazènes, des opioïdes synthétiques extrêmement puissants, ayant mené notamment au décès du jeune Matisse en décembre 2023. Il n'est pas le seul à s'inquiéter, car tout ce qui se retrouve dans la rue peut se retrouver dans une école. Il y a plus d'opioïdes sur le marché noir, donc les jeunes sont plus à risque nécessairement, résume Marie-Josée Michaud, coordonnatrice des services de prévention au Grand Chemin, un centre de traitement des dépendances pour les adolescents de 12 à 17 ans. Un constat partagé par Anne-Élisabeth Lapointe de la Maison Jean Lapointe. Depuis 20 ans qu'on est dans les écoles, on a vu les vagues, dit-elle. La première, c'était les boissons énergisantes. La deuxième, le Waxpen. On espère que la troisième, ce ne sera pas le fentanyl. Le cannabis, toujours interdit aux ados. Le cannabis a été légalisé au Canada en 2019, mais les jeunes de moins de 21 ans n'ont toujours pas le droit d'en acheter, d'en posséder ou d'en consommer. Les directions d'école vont saisir les substances et les policiers peuvent remettre des constats d'infraction, mais aucune infraction criminelle n'est déposée si le jeune a moins de 5 grammes sur lui. Les jeunes qui veulent consommer du cannabis doivent donc se tourner vers le marché noir. Ils ignorent le taux de THC de ce qu'ils vont consommer et courent de plus grands risques de contamination croisée. Par ailleurs, il n'est pas rare qu'un vendeur sans scrupules en profite pour proposer d'autres substances, comme des pilules, ce qui augmente le risque de dépendance et de surdose chez les jeunes. Pour tenter de minimiser les risques, et bien que cela soit interdit, des parents vont fournir leur enfant avec du cannabis acheté à la SQDC, un phénomène observé par des intervenants, mais qui serait néanmoins anecdotique. C'était « Des drogues plus dangereuses dans les écoles », un texte de Jessica Nadeau, paru le 29 octobre 2024 dans « Le Devoir ».
Le Gris Montréal lance sa nouvelle campagne de financement. Un texte d'André-Constantin Passiour, paru le 29 octobre 2024 dans le magazine Fugue. Comme on l'a dit dans des articles précédents, le Gris Montréal célèbre cette année ses 30 ans d'existence et d'implication dans le milieu scolaire. Ses bénévoles intervenants parcourent les diverses institutions scolaires pour témoigner de leur vécu LGBTQ+, et ainsi sensibiliser les élèves aux réalités de ces communautés. Dans un monde où le discours haineux est de plus en plus présent, ces interventions, plus de 1 000 par année d'ailleurs et plus de 20 000 jeunes rencontrés, sont plus essentielles que jamais. Mais voilà, toute chose a un prix. Le GRI lance donc sa campagne de levée de fonds 2024-2025 qui se présente sous la thématique « Se raconter, inspirer, rallier ». La campagne 2023-2024 avait récolté la coquette somme de 378 402 $, soit un peu plus de 3 000 $ de l'objectif prévu qui était de 375 000 $. Nous gardons le même cap cette année. On aimerait atteindre le même chiffre que l'an passé, soit les 375 000 $, de dire Andréi Pascou, qui est avocat et associé pour le groupe Litige et règlement des différends du cabinet Macmillan LLP et le président du Gris Montréal. L'an dernier, le thème était tout aussi d'actualité. Désamorcer l'intolérance, semer l'espoir. Avec la montée d'une certaine homophobie et transphobie au Québec, ce thème, se raconter, inspirer, rallier, tombe à pic. Se raconter réfère ici aux témoignages que nous faisons dans les écoles. C'est une manière aussi de bâtir l'empathie, explique pour sa part Gauthier Péchadre, le coprésident de la campagne et CPA associé chez Raymond Chabot Grant Thornton, département redressement et insolvabilité. Inspirer, c'est pour inspirer les jeunes LGBTQ+ du milieu scolaire, mais inspirer aussi à plus d'ouverture les jeunes hétéros. Se rallier prend ici plusieurs connotations. Évidemment, le but est le vivre ensemble pour tout le monde. Il y a aussi le niveau allié dans rallier, de rallier des gens. La communauté a besoin d'appui fort, comme le fait ici Annabelle Cadieux, la coprésidente de la campagne, qui est une alliée et qui croit à ce que fait le gris. En tant qu'allié, je m'implique dans la cause du gris car je suis convaincu que la création d'une société plus inclusive passera, en grande partie, par l'implication des alliés. Les alliés ont un rôle crucial à jouer pour déconstruire les idées préconçues, amplifier les voix déjà présentes et permettre une meilleure compréhension de la réalité des communautés LGBTQ+. À mon avis, on ne peut rêver à un monde plus juste et inclusif si on ne s'implique que dans des causes qui nous ressemblent. S'impliquer dans cette cause reflète pour moi une responsabilité sociale et morale. Je ne peux rester les bras croisés et voir une telle montée des discours haineux. Je compte sensibiliser les autres et lutter contre les comportements discriminatoires. Je le fais en m'impliquant dans la campagne du gris, en allant cogner aux portes des organisations et des individus, en tentant à ma manière de briser les barrières de l'intolérance et de promouvoir une société où chacun est libre d'exprimer son identité sans peur ni honte, de souligner Annabelle Cadieux, directrice générale et vice-présidente, secteur d'affaires, transformation des organisations chez Nova Concept. Le thème change à chaque année parce qu'on essaie d'être connecté le plus que possible à ce qui se passe dans la société, rajoute André Pascou. Dans ce cas-ci, on désire plus que jamais contrer les discours de haine et de violence contre les personnes LGBTQ+. La mission éducationnelle du gris est aussi un aspect important de mon implication. Étant consultante en développement organisationnel depuis bientôt 20 ans, la mission du gris rejoint la mienne à différents niveaux, de noter Annabelle Cadieux. Le gris agit majoritairement dans les milieux éducationnels, moi dans les entreprises. Ma mission professionnelle est de rendre les milieux de travail plus sains via, entre autres, le développement d'une gestion plus saine et inclusive. Je suis convaincu que le vecteur de l'éducation, par l'ouverture des prises de conscience et des dialogues, est une voie de choix pour réduire la discrimination, marginalisation, pour combattre la violence et le harcèlement, pour encourager une société plus respectueuse des droits humains. Se rallier est aussi dans le sens de rallier les entreprises, les organisations, le milieu des entreprises, les impliquer dans cette démarche, que ce ne soit pas que du pinkwashing, mais qu'elles prennent des mesures sérieuses, même à l'interne, pour faciliter le EDI, équité, diversité et inclusion, pour les personnes LGBTQ+, que ce ne soit pas que des paroles. Ellipse. Qu'elles se rallient au gris, affirme avec force Gauthier Péchadre, qui croit que les interventions du gris, même si elles ne sont pas immédiates, vont faire réfléchir les jeunes, vont les faire tranquillement évoluer dans leur vie. S'il y a bien un mot qui revient souvent dans la conversation, c'est bien le mot « rallier » qui est le dernier dans la phrase, mais qui, en définitif, est ici le plus capital, semble-t-il, pour ces intervenants. C'est un appel à l'action, au dynamisme, de mobilisation de nos communautés, d'aller chercher les alliés pour contrer le discours haineux qu'on entend en ce moment, dit André Pascou. Je voudrais remercier l'ensemble des anciens et nouveaux membres du cabinet de campagne, d'ajouter le président du gris. Nous sommes très heureux de pouvoir rallier de nouveaux membres ici. Cela prouve l'importance du gris à leurs yeux. Je voudrais remercier aussi Claude Marchand pour ses 3 années à la tête du comité de campagne. Nous sommes vraiment joyeux de l'avoir avec nous. Je remercie aussi l'implication de Gauthier. Cela fait 4 ans maintenant qu'il est avec nous, et aussi Annabelle qui est là depuis 1 an. Le GRI a beaucoup de gratitude envers toutes ces personnes-là qui se dédient pour le GRI et qui, justement, rallient les gens à la cause. Le comité actuel de levée de fonds comprend donc 15 personnes, y compris les présidents d'honneur. Claude Marchand, président du groupe LCI Éducation, Collège La Salle, entre autres, et François Leclerc, vice-président développement au groupe Leclerc, qui avait précédé M. Marchand en tant que président du cabinet de campagne, et qui seront là pour épauler cette équipe plus qu'enthousiaste qui ira cogner aux portes des entreprises, institutions et individus afin d'amasser les 375 000 $ recherchés. Info, site web, gri.ca/donner, D-O-N-N-E-Z. C'était « Le GRI Montréal lance la nouvelle campagne de financement », un texte d'André-Constantin Passiour, paru le 29 octobre 2024 dans le magazine Fugue.
Des ados à la recherche d'une intoxication forte et rapide. Un texte de Jessica Nadeau, paru le 29 octobre 2024 dans Le Devoir. Il y a toujours eu de la drogue à l'école, mais ces dernières années, la situation est devenue plus inquiétante. Les substances sont plus variées, plus fortes et surtout, plus sournoises en raison de la contamination au fentanyl et à ses dérivés. En parallèle, l'accès aux stupéfiants via les réseaux sociaux est plus facile que jamais. Le Devoir a voulu faire le tour de la question. Dans ce volet, le point de vue des intervenants en toxicomanie. Les jeunes font des mélanges de plus en plus risqués et n'ont aucune idée de ce qu'ils consomment, déplorent plusieurs intervenantes en toxicomanie. Jusqu'à tout récemment, Anne-Élisabeth Lapointe ne s'en faisait pas trop avec les risques de surdose chez les jeunes consommateurs. La directrice de la Maison Jean Lapointe, un organisme qui offre des ateliers en dépendance depuis 20 ans dans les écoles montréalaises, se fiait notamment aux données officielles datant de 2019, selon lesquelles un très faible pourcentage de jeunes d'âge scolaire consommaient d'autres substances que de l'alcool et du cannabis. Mais récemment, Mme Lapointe a eu un choc. Son équipe a diffusé une campagne de prévention auprès des adolescents sur les réseaux sociaux qui permet notamment à ceux-ci de poser des questions à un intervenant en direct. L'analyse des données a été une révélation, indiquant des tendances que la directrice n'avait pas vues auparavant. Un intérêt grandissant pour la cocaïne, les médicaments prescrits, le MDMA et les champignons magiques. Anne-Élisabeth Lapointe est particulièrement inquiète depuis qu'elle a assisté en direct à une discussion entre une adolescente et un intervenant. Cette jeune-là avait des questions par rapport au mélange de dilodide, un opioïde visant à soulager la douleur, et un stimulant. C'est préoccupant parce qu'on est dans des substances dangereuses, et ce sont des mélanges très, très risqués. Des modes dangereuses. Les jeunes n'ont aucune idée de ce qu'ils consomment, car les drogues vendues dans la rue ou sur le web sont contaminées et mélangées, explique Marie-Josée Michaud, coordonnatrice des services de prévention au Grand Chemin, un centre de traitement des dépendances pour adolescents. Nos jeunes, des fois, nous racontent des histoires, et on sait très bien que ce qu'ils ont consommé, ce n'est pas ce qu'ils croient. Un jeune va nous dire qu'il a consommé de la cocaïne, mais il n'a pas eu d'effet stimulant. Il avait un effet qui ressemblait plus à celui attendu d'un opioïde. Elle voit d'ailleurs de plus en plus de jeunes qui mélangent les substances. Cannabis, cocaïne, MDMA, aussi connus sous le nom d'ecstasy ou de molly, mais aussi des opioïdes dans une moindre mesure. Le lean ou purple drink revient aussi à la mode. Il s'agit d'une boisson à base de sirop de codéine et de 7-Up, parfois mélangée avec de l'alcool, augmentant les risques de dépression respiratoire. Il y a aussi le yaba, un mélange de méthamphétamine et de caféine qui commence à gagner en popularité chez les jeunes. Les modes varient en fonction des régions et de la disponibilité des produits, mais suivent généralement les grandes tendances observées dans la population et sur les réseaux sociaux. Les intervenantes avec qui le devoir s'est entretenu s'entendent pour dire que les amphétamines et les médicaments prescrits sont de plus en plus populaires. Les méthamphétamines et les stimulants, de façon générale, connaissent aussi un regain de popularité, tout comme les champignons magiques. Mais quel que soit le produit, ce que les jeunes recherchent, c'est une intoxication forte et rapide, rappelle Émilie Poisson de l'organisme Action Toxicomanie, qui offre des services dans les écoles de la Mauricie et du centre du Québec. La prise de risque et le sentiment d'invincibilité propre à l'adolescence sont des facteurs qui les rendent plus vulnérables. Certains sont naïfs, d'autres vivent avec la pensée magique que « ça ne m'arrivera pas à moi ». Plusieurs ont un faux sentiment de sécurité, associé au fait qu'ils connaissent le vendeur, alors que celui-ci contrôle rarement ce qui se passe en amont de la chaîne de production. À l'adolescence, le cerveau est en train de se développer. Le lobe frontal n'est pas à maturité, explique Marie-Josée Michaud du Grand Chemin. Les adolescents font des choix comme une auto de course, sans frein, sur le coup de l'impulsivité, sans penser aux risques. Ils veulent beaucoup de dopamine sans faire d'effort. Ils sont curieux. Ils ne consomment pas en se disant « je vais me taper une overdose ». Mais force est de constater que ça arrive. Et c'est ce que les intervenants tentent de leur expliquer, même si les adolescents accordent généralement peu de crédibilité à ce que les adultes peuvent leur dire. Ils ne peuvent pas savoir sur quoi ils vont tomber, illustre Marie-Josée Michaud. Je leur dis souvent, c'est comme lancer un dé. Le 1, ça va être un super beau party. Tu vas rire un peu plus et tu vas avoir un petit mal de tête le lendemain. Mais le 6, tu te tapes une surdose. Tu shakes comme un bacon. Tu te ramasses à l'hôpital et on ne sait pas si tu vas mourir. C'est ça, les produits de la rue. C'était Des ados à la recherche d'une intoxication forte et rapide, un texte de Jessica Nadeau, paru le 29 octobre 2024 dans Le Devoir.